Radio Kapi. Oh, Kapi.
Patience Ngalula à la présentation. D'abord les titres de ce journal, plus de 20 miliciens Mobondo arrêtés depuis mercredi dernier par le FRDC dans les encablures du village Ngambomi, territoire de Kwamout, en province de Maïndombe, résultat de l'opération de ratissage menée par l'armée dans cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis juin 2022. Les États-Unis exhortent vivement les autorités congolaises à entamer un réexamen approfondi des élections du 20 décembre 2023. Ceci ressort d'un communiqué parvenu à Radio Okapi ce vendredi. L'invité de ce journal est le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri. Lucien Muliri parle de l'effectivité de la mesure de libre-échange entre la RDC et l'Ouganda après la Tanzanie et les Kenya. Bonjour à tous. Au Maïndombe, plus de 20 miliciens Mobondo, dont une femme enceinte, sont arrêtés mercredi par le FRDC aux encablures du village Ngambomi dans le territoire de Kwamout et ont été sortis de la forêt. Ils doivent être transférés à Kwamout Cité pour répondre de leurs actes. Cela grâce à l'opération des ratissages menée par l'armée dans cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis juin 2022. Selon la société civile locale, outre les violences qu'ils ont imposées à Kwamout, ces Mobondo ont aussi rendu impossibles les activités champêtres dans ces coins. Une situation qui a occasionné une vie chère et la rareté des produits agricoles à la cité de Kwamout. Martin Souta, président de cette structure, encourage les travaux abattus par le FRDC qu'il invite à poursuivre jusqu'au retour effectif de la paix. Il a été joint par Irène Mbomaluzolo.
On a arrêté dans le village Ngambomi une vingtaine de Mobondo qui faisaient des sacs à la population. Alors ils sont arrêtés depuis hier. C'est aujourd'hui qu'ils vont faire la descente à Kwamout. Selon la nouvelle qui nous est arrivée, il y a même une femme enceinte impliquée, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de traquer la population qui devrait s'évader dans leurs travaux champêtres. C'est ce qui fait que la population aujourd'hui vit le calvaire. Le coût de vie devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la population qui ne vit que de la forêt ne le pratique plus. Ils sont arrêtés, ils vont descendre aujourd'hui à Kwamoutou. Nous encourageons les FRDC de tout ce qu'ils ont fait comme force, mais nous les encourageons aussi plus de continuer à faire parce que les miliciens sont toujours dans la forêt. Ils continuent à faire des efforts de manière à déloger tous les miliciens qui sont dans les forêts du territoire de Kwamout. Nous demandons aussi que la justice soit faite.
Rendons-nous en province du Maniema où l'on signale l'insécurité dans la ville de Kindu. Depuis un certain temps, les tronçons compris entre les châteaux d'eau et les couvents de sœurs à côté des cimetières constituent une poche d'insécurité difficile à gérer. La population y circule avec la peur au ventre, que ce soit les malades ou leurs proches qui se rendent au centre hospitalier Kitulouzo dans la commune de Kasuku ne se sentent plus en sécurité. Selon les témoignages, les bandits piègent les passants et arrachent des biens des valeurs en agressant parfois les victimes avec les armes blanches. Les victimes crient au secours des autorités. Florence Kizalunga, reportage.
Le dernier cas de cette insécurité en date est celui qui s'est produit le mercredi dernier. Une victime, Sœur Cécile Doumba de la congrégation de Sœurs de Notre-Dame de Bon Conseil, a été agressée par de malfrats non autrement identifiés. Elle témoigne.
J'étais partie acheter les médicaments à la pharmacie du Prodef pour notre sœur qui est malade. Vers l'entrée du centre hospitalier Kitulouzo, nous avons trouvé 5 garçons qui sont venus. Étranglés, il m'a attiré au cou. Ils sont partis avec les petits sacs. Et dans les sacs, il y avait ça, 36 000 francs et la facture de 45 000 francs pour les produits pharmaceutiques.
Le médecin directeur de l'hôpital Bedom fait savoir que cette insécurité a aussi des impacts négatifs sur la fréquentation du malade la nuit. Docteur Gustave Kilundukila.
Les conséquences sont presque sur tous les plans. Par rapport à la fréquentation, surtout la nuit, les gens commencent avoir peur de venir à l'hôpital, mais aussi pour les gardes malades. Et cela peut préjudicier même la santé du malade.
Ces derniers lancent un appel à l'intervention aux autorités et à la conduite à tenir pour le malade et leur famille. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je l'ai dit au sommaire, les États-Unis félicitent le président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué parvenu à Radio Kapi ce vendredi 12 janvier, les États-Unis exhortent vivement les autorités congolaises à entamer un réexamen approfondi du processus électoral, à enquêter et à tenir responsables ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple. D'autres détails avec vous, Paul Matendo.
Selon ce communiqué, la tâche importante qui consiste à renforcer la cohésion nationale après les élections exige du leadership, de la responsabilité et de l'inclusivité à tous les niveaux. Malheureusement, comme l'ont fait remarquer les missions d'observation nationale et internationale, l'insécurité, des problèmes logistiques et des lacunes dans la préparation ont entraîné des retards et créé des obstacles importants au vote le jour des élections, regrette la même source avant de poursuivre chez beaucoup de gens. Les incidents de fraude et de corruption ont suscité des doutes quant à l'intégrité des résultats. Dans le même registre, le gouvernement du Canada félicite le président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection ainsi que le peuple congolais pour la tenue d'élections pacifiques malgré les difficultés rencontrées. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 11 janvier, le Canada encourage la CENI à tenir compte des recommandations des missions d'observation électorale et à appliquer les leçons tirées de ces processus électoral aux cycles électoraux futurs. Le Canada encourage également toutes les parties prenantes à travailler de façon constructive dans le respect des droits de la personne afin de permettre au peuple congolais de bâtir une démocratie forte et saine.
Autre chose, les réseaux des commissions justice et paix de l'Église catholique du Haut-Katanga dénoncent et déplorent les nombreuses violations des droits de l'homme perpétrées dans l'espace Grand Katanga par les hommes en uniforme. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi à Lubumbashi, ces réseaux recommandent notamment au président de la République de démilitariser l'espace Grand Katanga. À l'auditeur général de FRDC de se saisir d'office des cas infractionnels dont sont auteurs les militaires et policiers déployés dans l'espace Grand Katanga. On écoute M. l'abbé Benoît Mukwamba, secrétaire exécutif des commissions justice et paix de l'espace Grand Katanga, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Les réseaux des commissions justice et paix catholiques Katanga expriment ses vives inquiétudes au sujet des actes d'intolérance politique caractérisés principalement par des menaces, intimidations, arrestations arbitraires et enlèvements de paisibles populations civiles, particulièrement des jeunes et des opposants politiques perpétrés par des hommes armés en tenue militaire ou policière dans les villes et territoires de l'espace Grand Katanga sans que les autorités politico-administratives ne donnent une réaction appropriée. Depuis la forte militarisation de l'espace Grand Katanga, les réseaux de commissions justice et paix catholique Katanga observent des enlèvements, menaces, intimidations et arrestations arbitraires des jeunes et des opposants politiques de la part des militaires et policiers sans raison valable et sans respect des procédures judiciaires.
À Kinshasa, plus d'une dizaine de familles du quartier Molokai et Maninga, dans la commune d'Engaliema, victimes de la crue du fleuve Congo, ont trouvé refuge au commissariat de la police des pompages. Ces sinistrés, pour la plupart composés de femmes et enfants, sont maintenant à la merci des intempéries et froids de la nuit après avoir abandonné leur maison. Ils sollicitent auprès des autorités compétentes une évacuation vers des lieux plus sûrs. Mère Fifika est descendue dans ce site. Suivez son reportage.
La montée des eaux de la rivière Mangungu a complètement inondé leurs habitations. Ces victimes, dans la plupart des cas, femmes et enfants, ne savent plus à quel sens se vouer. Après avoir tout abandonné, ils sont obligés de passer nuit à la Belle Étoile et dorment à même le sol. Marie, d'une soixantaine d'années, est l'une des victimes.
D'habitude, quand ça arrive, nous arrivons à récupérer quelques-uns de nos biens. Mais cette fois-ci, on n'a plus rien prendre. C'est grâce à Dieu d'ailleurs qu'on est parvenu à s'étirer avec les enfants. Ni t'étais les bandits, on ne serait plus en vie. Tout est inondé, on ne peut plus y retourner.
Le commandant du commissariat de la police des pompages, le commissaire supérieur adjoint Maurice Wandukisa, trouvé sur les lieux, indique pouvoir faire de tout son mieux pour venir en aide avec les moyens du bord à ces familles qui manquent de tout.
Notre bureau est transformé en dortoir. Quand vous venez la nuit, vous trouvez les gens étalés sur notre pavé là-bas.
De passer par cette situation qui, à ses yeux, risque de devenir ingérable, il en appelle à l'implication des autorités.
Je demanderai seulement aux autorités de pouvoir un peu intervenir parce que ça peut aller au-delà, ça serait une catastrophe difficile à gérer.
Le quartier Molokai et Maninga, pour ne citer que ceux-là, dans la commune de Ngaliema, sont actuellement vidés de leur population à cause de la montée des eaux de la rivière Mangungu.
À Matadi, au Congo central, à cause de l'inondation de la salle des machines de captage d'eau due à la crue des eaux du fleuve Congo qui s'observe ces jours-ci, la direction provinciale de la régie des distributions d'eau s'est dit être dans l'impossibilité de desservir toute la ville en eau potable. Selon son responsable, bien que pour le moment la situation est redevenue un peu normale après l'extraction dans les fleuves des pompes de captage d'eau qui étaient inondées, la distribution consistant à desservir peu d'eau pour tous va continuer. Théodore Ngandou a par ailleurs indiqué que ce n'est qu'après la décrue des eaux du fleuve Congo, lorsque la salle des machines inondées sera récupérée, que la desserte en eau sera améliorée. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Dans les conditions normales d'exploitation, nous fonctionnons avec deux pompes submersibles qui sont plongées dans l'eau pour envoyer de l'eau à l'usine. L'usine traite pour refouler vers le consommateur avec un groupe basse pression et trois groupes haute pression. Et la situation de perturbation qu'on avait connue au niveau de la ville et à cause de l'inondation de la salle, puisqu'il fallait installer la pompe là, on est en train de la résorber parce que le réseau était perturbé, il y avait un déficit. Nous maintenons notre distribution sectorielle, comme on dit, où on donne un peu de l'eau à tous suivant un programme de données, parce que nous n'avons pas la capacité de donner de l'eau à tout Matadi au même moment. Et dès qu'on va avoir le retrait des eaux, quand on va connaître la décrue, à ce moment-là, nous allons encore récupérer la salle là, de machines qui est inondée. Nous avons des travaux à faire pour que nous puissions chercher à avoir l'étanchéité pour que même l'eau ne s'infiltre pas. Et dans l'entretemps aussi, nous sommes en train de travailler sur un deuxième groupe submersible. Et pour que la distribution au niveau de la ville change, pour dire qu'on peut encore augmenter le nombre de personnes à ces villes au même moment, il faut des grands travaux à l'usine.
Et puis un chèque de 625 000 dollars américains remis au directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, ce jeudi 11 janvier, ici à Kinshasa, par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi. Objectif, renforcer la viabilisation des zones économiques spéciales dans les 6 espaces industriels que compte la RDC. C'est ce qu'a déclaré à la presse Julien Paluku, ministre de l'Industrie, en marge de la réception de ces chèque. Julien Paluku est au micro de Paul Matendo.
L'argent du FPI, j'insiste, c'est pas de l'argent à thésauriser. C'est de l'argent à recycler. Il faut réinjecter cet argent dans le circuit économique du pays pour vous permettre, vous, d'avoir une assiette qui est beaucoup plus large. Parce que si vous financez beaucoup d'activités industrielles, la TPI va augmenter. Et donc, on va avoir demain, au lieu de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions. On est en train de piloter une autre zone à Gwaka, c'est dans le sud du Bangui, ce qui nous permettra de gérer les corridors qui partent ici du Bangui vers Zongo, Centrafrique. Centrafrique, on ouvre la RDC sur le marché ouest-africain. Nous sommes en train de créer une autre zone économique au nord Kivu pour gérer toutes ces importations qui nous viennent de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, etc. Commencer à produire localement là-bas. Donc vous comprenez que c'est beaucoup d'activités comme ça économiques qui méritent un soutien.
146 cas de lèpre enregistrés en 2023 dans les territoires des Moba, province du Tanganyika, statistique livrée par les superviseurs de la lèpre et tuberculose dans la zone de santé des Moba. D'après Philippe Ndaïlé, c'est donc une baisse des cas constatés depuis 2019 dans ces territoires. Toutefois, signale-t-il, la maladie est loin d'être éradiquée. Il indique par ailleurs que la prise en charge des malades est assurée par le partenaire Action d'Amiens. Philippe Ndaïlé est au micro de Paulin Mounan.
Depuis plusieurs décennies, Moba connaît la persistance d'une endémicité de la lèpre. Néanmoins, depuis 2019 à 2023, nous assistons à une baisse spectaculaire de cas de lèpre. En 2019, nous avons enregistré 265 nouveaux cas. Et l'année qui vient de s'achever, 2023, 146 nouveaux cas. Avec les chiffres que nous avons actuellement, nous sommes encore très loin d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé. Alors, nous avons deux axes principaux, l'axe lac et l'axe plateau. Alors, retenons que la lèpre est beaucoup plus endémique dans les villages situés au bord du lac Tanganyika. C'est notamment à Kapakwe, à Mobaport, à Regeza, à Mulunguzi. Et je signale que Mulunguzi, là, il y a beaucoup de cas. Nous demandons à la population de Moba de se présenter à temps dans nos services de santé dès l'apparition des signes suspects de la lèpre. Le traitement est gratuit dans toutes les structures sanitaires de l'État.
Actualité internationale.
Emmanuel Macron a demandé ce vendredi aux membres du gouvernement Attal d'être des révolutionnaires, pas des gestionnaires, et les a incités à la discipline. Selon des propos rapportés par des participants au Conseil des ministres, je vous demande de la solidarité et de la vitesse qui sont la condition de l'efficacité, a dit le président lors de la première réunion de l'équipe de son nouveau premier ministre, Gabriel Attal. J'attends de vous des résultats, encore des résultats et toujours plus de résultats. Je ne veux pas d'état d'âme, je veux des états de service, a-t-il martelé.
L'invité.
La mesure de libre-échange entre la RDC et l'Ouganda est effective depuis le 4 janvier dernier après la Tanzanie et le Kenya. Dans la province de l'Ituri, 80% des produits de première nécessité sont importés de ces pays voisins, précise la Fédération des entreprises du Congo. Pour le comité provincial de la FEC Ituri, le gouvernement de la RDC doit améliorer le climat des affaires, la desserte en électricité et les infrastructures routières pour la promotion des industries locales et permettre des renverser la tendance. Lucien Mouliri, président de la FEC Ituri, s'entretient avec Isaac Remoyopé.
Le président de la FEC en Ituri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis le 4 janvier, l'Ouganda a supprimé le paiement des visas pour les ressortissants congolais après le Kenya et la Tanzanie dans le cadre des communautés de l'Afrique de l'Est et EAC. Comment avez-vous accueilli cette mesure?
C'est une bonne nouvelle pour nous, les opérateurs économiques, mais aussi il faut peut-être dire que dans le cadre de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, c'est une exigence parce qu'entre le Kenya, la Tanzanie, les Rwanda, l'Ouganda et le Sud-Soudan, il n'y a pas de visa. Et nous, on s'attendait à ce que pour la République démocratique du Congo qui venait d'adhérer à cette communauté, que la même chose se fasse.
Quels sont les avantages de cette zone de libre-échange pour les opérateurs économiques? Est-ce que cela implique aussi, par exemple, la suppression des taxes et des marchandises aux frontières des pays membres?
Je crois qu'ils y vont progressivement. Mais les avantages, il y en a. Parce que nous qui payons les visas pour entrer en Ouganda, désormais, nous ne les paierons plus. Vous savez, pour les opérateurs économiques, quand vous allez faire les achats, chaque dollar que vous dépensez, vous les mettez dans la marchandise et finalement, c'est le dernier consommateur qui doit les supporter. Ce qui fait que quand on n'a pas payé les visas, il y a quand même à un certain niveau le prix qui est réduit par rapport à une charge qui aurait dû être faite, qui est finalement devenue une charge de moins. Je crois que de part et d'autre, il y a des avantages.
Sur le plan économique, par exemple, quel est l'impact de cette mesure?
Par rapport à la libre circulation des marchandises, c'est aussi un avantage de part et d'autre. Mais ça profite beaucoup plus aux pays qui produisent plus et qui exportent plus. Comme l'Ouganda et le Kenya, nous dépendons beaucoup plus de ces pays qu'ils dépendent de nous. Et donc, ça va beaucoup plus profiter à eux qu'à nous.
En termes de volume ou de flux d'importation, est-ce que vous pouvez estimer à combien de pourcents?
Pour nous qui sommes dans la partie orientale du pays, et spécialement ici à Bounia, nous dépendons de ces pays à une proportion de 70% à 80%. Et de ce fait, vous comprenez que c'est eux qui gagnent parce que nous sommes, comme qui dirait, une extension de leur marché et de la consommation de ces pays-là. Et donc, nous serons défavorisés de ces côtés-là parce que nous ne produisons pas ce que nous pouvons leur vendre. Mais eux, ce qu'ils produisent, ils nous les vendent et nous les consommons.
Est-ce qu'il y a quand même des produits que les opérateurs économiques
Congolais exportent dans ces pays.
Nous, nous produisons les cacao. Nous les vendons malheureusement à l'état brut à ces pays là-bas. Il en est de même pour le bois et pour les cafés. Mais ce qui pourrait être une bonne chose pour nous, si nous étions des visionnaires, nous aurions dû encourager ou subventionner les opérateurs économiques de notre province pour que les cacao, les cafés et même le bois que nous produisons, au lieu de le vendre à l'état brut, que nous puissions les transformer localement, parce que cela aurait un impact de la valeur ajoutée qu'on y aura additionnée. Et de ce fait, ça donnerait aussi du travail aux citoyens congolais et ça permettrait que nous faisions beaucoup plus de recettes que quand on les vend, comme c'est le cas actuellement, à l'état brut.
Mais quels sont les défis pour qu'on puisse renverser la tendance?
Les défis que nous avons ici, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, nous n'avons pas de l'électricité parce que personne ne peut produire. Il peut à la rigueur produire, mais transformer, on ne le peut sans électricité. Et aussi, le plus grand problème, c'est le problème de la fiscalité. Notre fiscalité n'est pas attractive, notre climat des affaires n'est pas assaini, et ça fait que nous retrouvons à toute une mosaïque des taxes. Lorsque nous produisons ici, notre produit ou nos produits ne sont pas compétitifs avec ce qu'ils le sont au niveau de l'étranger. La conséquence est que nous sommes obligés malheureusement de fermer parce que nous sommes envahis par les produits qui viennent de l'autre côté. Alors, le travail qui doit être fait à l'interne chez nous, c'est qu'il faut assainir le climat des affaires, il faut que notre fiscalité soit attrayante et attractive, il faut que les taxes soient sensiblement réduites à la baisse, et il faut que la tracasserie s'arrête. Il faut que les infrastructures routières soient réhabilitées pour assurer la mobilité et permettre aux gens de pouvoir s'approvisionner en produits de première nécessité comme il se doit. Ça peut nous aider.
Merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier.
C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde pour vous par Dieudonné Nyangassa, Jacques-Yves Moulima à la coordination et Patience Ngalula, j'étais à la présentation. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.